Mademoiselle Deray, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
Intégralement pas filmé, un podcast présenté par Quentin Albou et Alice Lavigne.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Intégralement pas filmé. Bonjour Alice.
Bonjour Quentin.
Comment tu vas?
Bah ça va super et toi?
Bah écoute, ça va, hein. Bon c'est pas la forme non plus, je dors pas très bien.
Ah bon?
Je sais pas, oh, bah mais sinon ça va. Voilà. Du coup, cette semaine, on va parler des petites jumelles du cinéma français dans J'irai où tu iras avec Géraldine Nakache et Léla Becti.
Moi, dans ma playlist cette semaine, il y aura le nouvel album de Mannequins.
Et ensuite, on parlera de qu'est-ce qui se passe après qu'on meurt dans The Good Place sur Netflix.
Bah, du coup, Quentin, est-ce qu'on commencerait pas par se faire une petite toile?
Eh ben, écoute, avec grand plaisir.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
Alors cette semaine, je vous parle de J'irai où tu iras, qui est sorti mercredi dernier, un film de Géraldine Nakache avec Géraldine Nakache, écrit par Géraldine Nakache, avec Léla Becti, Patrick Timsit et Pascal Arbillot notamment. Dans ce film, on suit Vali et Mina qui sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L'une est chanteuse, rêveuse et émotive, l'autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l'occasion rêvée pour les rassembler le temps d'un week-end et tenter de les réconcilier. Vali a décroché une audition à Paris et c'est Mina qui va devoir l'y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. C'est une histoire de retrouvailles, une histoire d'amour entre deux sœurs, l'histoire d'une famille qui s'aime mais qui ne sait plus se le dire. Je sais que beaucoup m'attendaient sur le Joker cette semaine, parce que bah évidemment c'est la sortie de la semaine, et pourtant moi j'ai choisi ce film. Mm-hmm. Donc comme je l'ai dit, c'est un film de Géraldine Nakache, c'est son troisième après Tout ce qui brille et New York. Tout ce qui brille qui est devenu un peu une référence, hein, notamment avec la chanson qu'elles ont repris de Véronique Sanson. New York qui est un peu moins de référence, notamment parce que sa qualité est moindre. Mais ce troisième volet de la saga Géraldine Nakache, j'ai envie de dire, c'est notamment l'occasion de retrouver ce petit duo de jumelles du cinéma français, comme j'aime les appeler, Léla Becti et Géraldine Nakache. Alors cette symbiose entre les deux est presque inédite, je trouve. Elles ont une association parfaite, tu sens qu'elles se comprennent, tu sens qu'elles aiment jouer ensemble, et tu sens qu'elles... C'est quelque chose qu'on voit très peu dans le cinéma, notamment français. C'est une alchimie, c'est de la compréhension l'une de l'autre, un regard et tout se sait. Et c'est ce qu'on voit dans leur film, en fait. Ce qui m'a notamment touché, c'est que c'est un film frais, c'est un film drôle et très émouvant en même temps. J'aime pas trop cette expression qu'on ressent un peu à toutes les sauces du « on passe du rire au larmes », mais pour le coup, c'est vrai, parce que le fond est très très grave. Ça parle de mort, ça parle de maladie, de deuil. Mmh. Et pourtant, tu passes les... trois quarts du film à te marrer, mais comme un dindon, certains diront, comme un dindon. Et donc moi, j'ai trouvé ça super agréable à vivre, parce que t'as pas ce problème de... Parce que certains films te font rire alors qu'ils sont graves, et du coup, tu t'en veux un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Ça rit du malheur. Là, ça rit à côté du malheur, ça rit pour ne pas voir le malheur, et je trouve ça super intéressant. On a aussi Patrick Timsit qui est juste incroyable. Patrick Timsit, c'est notamment la voix du mentor de Hercule dans Hercule de Disney. C'est notamment un humoriste assez controversé parce qu'il est politiquement incorrect, mais moi j'adore ce mec. Et en tant qu'acteur, il est incroyable. Dans ce film-là, il joue le père veuf de Mina et Vali, et il est juste hilarant. C'est le père surprotecteur, c'est le père qui rigole, qui accompagne ses filles partout et qui fait surtout des blagues. Vous verrez pendant le film que ce mec fait des blagues extrêmement drôles et tout le temps. Dans ce film, on retrouve aussi Pascal Arbillot, donc son nom vous dit peut-être rien, parce qu'à moi non plus. Et pourtant, on l'a pas mal vu, donc je parle pour moi évidemment. Notamment dans La folle histoire de Max et Léon, ce magnifique film du Palmachot. Mais aussi dans La fête des mères, dans Nous finirons ensemble, le film qui vient de sortir, La suite des petits mouchoirs. Dans Guy, un film avec Alex Lutz, et deux Alex Lutz, où on retrace la vie d'un chanteur un peu has-been. Et donc voilà, donc Pascal Arbillot dans ce film joue le rôle de Gilberte, qui préfère se faire appeler Jill. Une tenancière de Airbnb. Mmh. Et elle joue un rôle extrêmement touchant, puisque c'est une mère seule qui a vu ses filles partir aux quatre coins du monde et qui du coup cherche de l'attention et cherche à aimer et cherche à être aimée. Et c'est extrêmement touchant. Donc tout ce melting pot de personnages extrêmement différents et pourtant extrêmement touchants, ça nous donne un film qui nous fait réfléchir sur la vie, sur la mort, comme j'ai dit, mais aussi qui nous fait... un peu réfléchir sur la famille. C'est un film extrêmement familial, dans le sens où on cherche des repères familiaux dans ce film. Deux sœurs qui se parlent plus, une mère absente, une mère qui n'a plus ses filles. Donc autant vous dire que ça va être un film qui va beaucoup parler de ça. Et moi, j'ai surtout trouvé que les dialogues étaient extrêmement fins, extrêmement drôles et extrêmement réalistes. On a une performance d'acteur extrêmement qualitative. Même le dernier mec au fin fond du plan joue extrêmement bien son rôle de figurant. Géraldine Nakache, magnifique, et en plus chante très très bien dans ce film, puisqu'elle chante ses chansons.
Ah ouais?
Ah ouais, elle chante ses chansons. Vali passe une audition pour devenir choriste française de Céline Dion.
Trop stylé.
Et donc elle chante du Céline Dion et t'entends du Céline Dion. Donc déjà, c'est un bon argument. Et ouais, Géraldine Nakache chante ses propres chansons.
Grave stylé.
Et elle chante très très bien. Ça, c'est un truc que je pensais pas non plus, mais elle chante très bien.
Championne.
Leila Bekhti, excellente dans ce rôle de meuf insupportable, de meuf antipathique au possible. Et c'est dans ces rôles-là que je l'adore parce qu'elle joue ça tellement bien. Encore une fois, je le répète, tous les acteurs sont excellents. Il y a pas mal de second rôles, notamment dans ceux qui passent audition pour les choristes, qui sont mais phénoménaux. Et donc voilà, un film frais, un film qu'on a envie de voir, un film qu'on voit pas assez. Ah, et aussi un point très important que moi j'ai adoré, ça va peut-être lancer un débat entre nous, Alice. L'histoire se déroule uniquement sur 2 jours. Et je trouve que dans le cinéma actuel, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. On a souvent des films qui se déroulent sur des temps pas possibles. Et moi j'aime bien quand ce temps est minime et que du coup les personnages évoluent très vite. Il y a un rythme très soutenu et du coup, il y a pas un moment où tu te dis c'est chiant, tu vois.
Ouais, je suis d'accord.
Quelque chose se passe toutes les secondes, tout le temps. Et du coup, ce rythme très soutenu te donne envie d'être dans le rythme avec eux, tu vois. T'as aucun moment où tu soupires ou tes yeux ils partent ailleurs. T'es à fond dans le film de la première à la dernière minute. Et du coup, ouais, ça, je trouve ça super intéressant. Et je trouve que ça se fait plus assez.
Oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que la plupart des films, ça se déroule sur 1 mois, 2 mois, 1 an. Et puis souvent, t'as des ellipses à la fin, genre 10 ans plus tard, 6 ans plus tard. Et du coup, c'est vrai qu'on perd cette vision du temps. Et du coup, quand tu vas voir un film, tu te rends pas compte vraiment du temps qui passe parce que ça, d'un plan à l'autre, tu peux avoir un saut de plein de jours, de mois. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça change.
Ouais, là, je te dis, on commence un soir à, je sais pas, approximativement 20h. Et 1h40 plus tard, à la fin du film, t'es 2 jours plus tard, 14h, tu vois.
C'est trop
et ça,
stylé.
Je trouve ça très bien. T'as 2 journées où les sœurs se retrouvent ensemble et doivent mettre leurs problèmes de côté. Et en plus, je trouve que ce but qui est assez futile en soi, tu vois, ça permet de pas mettre l'accent là-dessus, mais plutôt sur justement le voyage, comment elles vont faire pour s'entendre, comment elles vont faire pour pas s'engueuler comme des vaches, parce que elles se détestent et c'est fou de voir ce truc-là. Tu vois, moi qui m'entends très bien avec mes frères et sœurs, je trouve que c'est très bien de parler de cette relation antipathique entre 2 sœurs que tout oppose et qu'au final, vous verrez, ça se résout à cause d'un seul truc, tu vois. C'est un petit truc qui fait qu'elles se sont perdues de vue et que là, elles vont se retrouver et ça fait du bien à voir. Donc voilà, allez voir ce film, J'irai où tu iras, film de Géraldine Nakache, merveilleusement bien écrit, merveilleusement bien réalisé et surtout une bonne bolée d'air frais qui fait du bien dans ces temps mitigés. Et du coup, Alice, qu'est-ce que t'as dans ta playlist cette semaine?
Vous aimez Mozart?
Oh oui, c'est lequel?
Le dernier.
Et bien cette semaine, après être passé par l'Irlande, par l'Angleterre, et ben on revient sur notre bon vieux territoire français, notre bonne vieille France.
Nos régions du talent.
En effet, nos régions du talent, puisque cette semaine, je vais vous parler du groupe Mannequins, qui s'écrit pas comme ça se prononce, puisque ça s'écrit M-N-N-Q-N-S, voilà.
Ces personnes ont donc un problème avec les voyelles.
Tout à fait, ou alors parce que le mot en entier était déjà pris, possible.
Ah, les problèmes juridiques toujours et encore. Moi, je pense vraiment que c'est une antipathie aux voyelles.
Peut-être, faudrait leur demander. Mm. Écoutez, Mannequins...
Moi, j'ai contacté le groupe et ils m'ont dit « Non, non, on n'aime pas les voyelles, monsieur. » Enfin, ils m'ont pas dit ça comme ça, ils m'ont dit « Nénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénénén
qui c'est Mankins, mis à part un groupe qui déteste les voyelles apparemment.
Ouais.
C'est un groupe français qui vient de Rouen.
D'ailleurs, on embrasse Rouen, hein, qui sont encore sous les nuées toxiques.
Et donc, les Rouennais, on vous bloquisse sous la suie.
On vous bloquisse, mais pas sur la peau directement, puisque vous êtes plein de suie.
Et donc, ce groupe a été créé en 2013. Moi, je t'avoue que je suis pas trop au fait de la musique française, parce que je suis plutôt axée musique anglophone, et c'est mon erreur d'ailleurs, mais surtout côté rock.
Bah moi, je te cache pas non plus que côté rock, je suis pas très au courant des choses. Hein.
Sauf un groupe qui s'appelle Last Train.
Pour Bouchan.
Pour Bouchan, tout ça fait. Bah, un film très très bon, on vous recommande. Deuxième recommandation
coréen
de la semaine.
Que j'adore.
Et donc, sauf ce groupe-là qui est très 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 bon, qui vient de sortir un album d'ailleurs que je recommande, qui s'appelle The Big Picture. Boum, 4 recommandations.
Waouh, mais attends, est-ce que ce serait pas un record?
Un record? Attention, on va rentrer dans le Guinness.
Je pense vraiment pas que c'est une catégorie du Guinness. Nombre de recos dans un podcast de merde, je suis vraiment pas sûr que ce soit un putain de truc de Guinness.
On peut être sûr d'être détenteur de la première place.
Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Procédez, je vous en prie.
Et donc c'est pour ça, en fait, je pense que je n'en avais jamais vraiment... Enfin, j'en avais vite fait entendu parler, mais je m'étais jamais penchée sur la question. Sauf que bon, je t'avoue, ils trichent un peu, je triche un peu, puisqu'ils chantent en anglais.
Et moi qui pensais que c'était des patriotes.
Et non, on contourne un peu le problème. Donc c'est un groupe français, mais qui chante en anglais. Après l'intro la plus longue du monde, en gros, donc c'est un groupe de rock, punk, un peu indescriptible parce qu'ils sont caméléons sur pas mal de styles. À première vue, on peut croire que c'est un groupe de rock lambda, genre basse, guitare, batterie, chant, normal. Sauf que plus tu creuses, plus tu sens qu'il y a beaucoup d'influence parce qu'il y a de la pop, il y a un peu d'électro. C'est très touche-à-tout, ce que je trouve très original, surtout dans la scène rock actuelle. J'ai l'impression que soit c'est très expérimental, soit c'est très traditionnel. Et du coup, eux, ils sont un peu entre les deux, je dirais. C'est dans l'expérimental et dans le tradi. Du coup, ça me va. Mm-hmm.
Alors, de mon oreille néophyte du rock and roll, moi, je trouve que j'ai perçu ces petites notes électroniques, mm-hmm. tu vois. Ça m'a un peu dérangé d'ailleurs. Et moi, je pense qu'ils sont justement plus dans l'expérimental que dans le traditionnel. Parce que moi, vraiment, tu vois, le rock pur et dur à l'ancienne, ça me dérange pas. Mm-hmm. Tu vois, j'écoute pas ça souvent parce que c'est pas mon registre de prédilection. Mais ça me dérange vraiment pas et ouais. Je peux même apprécier, hein, ce qui n'est pas rare. Mais cet album que j'ai écouté pour le podcast à mon plus grand désarroi, j'ai vraiment pas aimé parce que justement, je les ai trouvés beaucoup trop expérimentales, beaucoup trop électroniques, beaucoup trop dans le... T'as l'impression qu'ils mettent un peu de ci, un peu de ça, ils voient ce que ça fait et après ils le mettent sur l'album, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était justement trop expérimental et pas du tout à mon goût.
Je peux comprendre. Et surtout que, en fait, ce groupe-là, tu l'as découvert par leur dernier album, qui est d'ailleurs leur premier album, qui s'appelle ouais. Body Negative, qui vient juste de sortir mm-hmm. il y a quelques semaines. Sauf que moi, en fait, je les ai pas découverts à travers leur musique studio, puisque par le plus grand des hasards, j'ai obtenu une accréditation pour aller prendre des photos à leur concert à la Maroquinerie le 3 octobre dernier.
Et d'ailleurs, on se permet de dire que tu as des accréditations parce que tu es une blogueuse musicale qui écrit un blog qui s'appelle Out of the Sound.
Merci beaucoup de faire ma promo.
Out of the Sound. Ah bah écoute, t'es multicasquette, moi je le dis.
Merci, hein. C'est gentil.
Ah moi je suis pas peu fier d'être associé à cette personne qui est multicasquette, je vous le dis. Elle a de multiples talents, je voudrais que vous les découvriez.
C'est bon, Quentin est mon publiciste, il est engagé.
Ah ouais, moi je veux bien être ton attaché de presse, tu veux.
Eh ben, t'es embauché, voilà. Transaction faite.
Yes.
Et du coup, en fait, j'avais demandé cette accréditation parce que j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait en live. Parce qu'en première partie, il y a un autre groupe de rock français dont j'ai énormément entendu parler, qui s'appelle, attention au nom, âme sensible à s'abstenir, We Hate You, Please Die.
Qu'on peut traduire par « Nous te détestons, s'il te plaît, meurs ». Ce qui est un message d'amour. C'est de la psychologie inversée, messieurs dames.
Donc, j'avais beaucoup entendu parler de ce groupe aussi qui est en train un peu de remuer la scène rock française. Et donc, je me suis dit, les deux en un, ça va me permettre de découvrir quelque chose de nouveau, de voir de mes propres yeux ce dont tout le monde parle. Et donc, j'y suis allée avec quand même un peu d'attente, mais pas énormément vu que je savais pas du tout dans quoi je me lançais. Et en fait, c'était une très très bonne surprise, puisque je pense que moi, je me suis mieux débrouillée que toi, puisqu'ils sont... Je les trouve bien meilleurs en live qu'en studio, ce qui est plutôt rare.
Bah oui, parce que studio, tu peux arranger ta musique, alors qu'en live, c'est toi seul face à la scène, tu vois.
Et là, pour le coup, parce que depuis le concert, du coup, j'écoute l'album en boucle tous les jours pour... parce que ça me plaît plutôt bien.
Ah ouais, tu te fais du mal quand même.
Oh, t'es vilain.
Oh, je suis salé, ouais.
Mais du coup, je me fais cette réflexion-là, que j'ai beaucoup plus apprécié le live que le studio. Je ne dis pas que je n'aime pas du tout leur album, parce que pour le coup, j'aime beaucoup leur album, mais en live, c'est carrément autre chose. Parce qu'ils ont une présence scénique qui est ouf, et du coup...
Et non pas une Renault Scénic, qui est une voiture.
Attention à la confusion.
Ah, moi, ça m'est arrivé une fois, je peux te dire que j'étais dans une belle tambouille.
Hein. Tu m'étonnes. Comment tu t'en es sorti?
Bon, ouais, j'appuie sur l'embrayage, hein, puis j'ai démarré, je traçais la route, je caroubais.
Je n'en doute pas une seconde. Et du coup, la millionième parenthèse. Et donc, ils ont vraiment une présence scénique qui est incroyable. Les gars, tu sais pas que c'est un petit groupe français, et je dis petit avec des guillemets parce qu'ils sont quand même signés à un label britannique. Donc, ça veut dire plus grosse ouverture au monde. Donc, ça veut dire qu'ils ont plus de chances outre-Manche. Ils ont plein de concerts à Londres et autres. Qu'ils étaient à Rock en Seine cette année. Donc, je dis petit avec des pincettes. Hein.
Petit, mais qui est en train de percer sale.
C'est ça. Donc, quand tu les vois sur scène, si on ne dit pas c'est un petit groupe français qui vient de Rouen, tu crois que c'est le nouveau groupe britannique, américain, qui est en train de percer un peu underground, qui vient à Paris pour tester les foules parisiennes, françaises. Et en fait, pas du tout. Ça, c'était vachement bien. Et puis, du coup, j'ai abordé le concert différemment vu qu'on m'avait plus ou moins embauché pour prendre des photos. Donc, t'es obligé de vivre ton concert sous un autre angle.
Oui.
Et j'ai fait quelques concerts pour lesquels je devais prendre des photos. Il y en avait où ben, les artistes sont bons et il n'y a pas trop de présence scénique. Du coup, pour prendre des photos, ben, t'es un peu gêné parce que ça rend pas grand-chose. Et t'as des groupes comme eux où tu te régales parce que, bah, en gros, ils jouent avec l'appareil photo, ils ont un personnage sur scène. Et le personnage du bon gros rocker qui en joue, par exemple, à la fin, le bassiste a explosé sa guitare sur la scène.
Ah, bah, ça, c'est bien.
J'étais pris de court, j'étais juste à côté, j'étais en train de remettre mon manteau. Et puis là, je le vois à un mètre de moi en train d'exploser sa basse. J'étais un peu surprise, mais bon.
Ah, bah, ça, c'est rock'n'roll. Ça, monsieur
Tout
Johnny aurait apprécié, tu vois.
Johnny, dans sa tombe, il a applaudi. Donc, je pense, pour moi, que c'est plus un groupe live qu'un groupe studio. Même si c'est un bon groupe studio.
Ça se discute.
On peut être en désaccord avec moi. Moi, c'est ce que j'en pense, c'est mon humble avis.
Oui, non, mais je peux comprendre. Après, je suis vraiment pas rock, du coup, c'est peut-être pour ça que j'aime pas trop l'album.
Oui, après, si t'es pas le public visé, c'est sûr que...
Ah bah, c'est sûr, ouais.
Mais d'ailleurs, en parlant de public, il était vachement varié. Et ça faisait plaisir de voir un concert comme ça, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée à un concert de rock pur et dur, tu sais, le bon gros concert de rock, où il y a des mosh pits de partout, alors que la maroquinerie, c'est quand même une petite salle, hein, on va pas se mentir. Pourtant, il y avait des bons gros mosh pits. Il y avait d'ailleurs un enfant de peut-être 8 ans qui était au premier rang contre la scène, qui vivait sa meilleure vie, qui était dans les mosh pits et tout. J'ai eu un peu peur pour lui, je te mens pas. Mais le gars, il vivait sa meilleure vie.
Les risques du métier, hein. Il sait où il s'engage.
Ah non, mais je te jure.
Mais il était tout seul?
Bah, il y avait son père à côté, et du coup, tu voyais qu'il le protégeait, mais tous les deux, ils s'en jaillaient de fou.
Et son père le poussait dans les pogos.
Mais du coup, c'était grave drôle, parce que t'avais des gens de notre âge, t'avais des filles, des garçons, t'avais des gens de la trentaine, t'avais des gens de la cinquantaine, bah, t'avais un petit garçon de 8 ans qui pogotait plus que les darons de 50 ans. Mais du coup, c'était un bon mélange, et donc je me suis dit qu'il fédérait quand même un public très large, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs.
Ah bah, ce qui est toujours mieux.
Surtout que donc les mosh pits, bon, je t'avoue, moi j'ai un peu flippé parce que un mosh pit, tu l'apprécies un peu moins quand t'as un gros appareil photo dans les mains.
Ah bah écoute, quand t'as 1500 balles dans les mains, c'est sûr que tu préfères y faire attention.
T'as des petites gouttes de sueur sur ton front, tu tiens ton appareil photo comme si c'était ton premier enfant, n'est-ce pas?
Le premier, parce que les autres...
Oui, les autres, on s'en fout. Mais ça montre du coup que le public était réceptif au son. Et vu que le public était réceptif à ce point-là, ben, le groupe, il s'est donné à fond sa mère. Le chanteur, il se jetait dans la foule. Tu vois, ils en jouaient. Il y avait une très très bonne symbiose entre le public et le groupe. Et du coup, c'est là où j'ai découvert leur musique sur scène. Et j'ai vachement apprécié parce que les différences entre les différents styles qu'il y a sur l'album se ressentent moins. Parce que, comme j'ai dit, ils sont quatre. Donc t'as basse, guitare, batterie et chanteur. Chanteur qui joue aussi de la guitare. Mais en gros, ils sont quatre, donc ils peuvent pas avoir tous les instruments qu'ils avaient en studio. Ouais. Donc c'est un son plus brut.
Et ben tu vois, je pense que ça, j'aurais plus apprécié.
Peut-être, oui.
Quelque chose de plus épuré, ouais.
Ils arrivaient quand même avec la distorsion de leur guitare pour changer un peu le son. Mais du coup, ça faisait un peu plus linéaire comme concert, même si tu voyais qu'il y avait des chansons qui étaient plus douces. Je pense notamment à la chanson qui s'appelle Stagnant Pools, qui est personnellement ma préférée de l'album, qui est une chanson un peu plus douce, qui du coup est dans la catégorie des plus expérimentales avec un peu de distorsion de guitare, qui est sublime. Tu as, il me semble, c'est une de leurs plus connues, qui s'appelle Not What You Thought You Knew, qui est un peu plus pop, qui fait un peu... rétro, tu sais, que tu t'aurais pu entendre il y a quelques décennies.
Ben celle-là, c'est une de mes préférées, tu vois.
Et ben elle est très sympa.
C'est une de celles que j'ai appréciées.
C'est une chanson qui est un peu passe-partout. Tu l'écoutes avec grand plaisir. Et après, t'as les chansons, comme je disais, comme la chanson avec un merveilleux titre qui s'appelle Urinals, donc les urinoirs.
Le message est fort.
Une bonne chanson rock, bien traditionnelle, qui donc invite au mosh pit. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est là où on a perdu l'enfant de 8 ans.
Puis on l'a retrouvé en âge, mais toujours vivait sa meilleure vie. À la fin du concert, il est monté sur la scène pour arracher une setlist. Je me suis dit, celui-là, c'est un vrai. Il a une belle lignée.
Celui-là, il va donner des beaux enfants.
Et oui. Donc ça, c'était le concert, donc le 3 octobre. Et ça faisait vachement de bien, parce que pour ceux qui sont amateurs de rock pur et dur, c'est le bonheur. Bon rock comme il faut, comme on aime bien, enfin, quand on aime bien, n'est-ce pas, Quentin ?
Ah oui, parce que moi, à titre personnel, je conseille pas cet album. Hein. Mais après, c'est parce que j'ai absolument aucun goût musical.
Faut pas dire
ça. C'est d'ailleurs pour ça que c'est toi qui fais cette section du podcast.
Non, tu as juste des goûts différents des miens. Et du coup, ça rend la section plus intéressante, puisqu'on n'est pas tous les deux à dire « Waouh, c'est merveilleux !»
Effectivement, c'est une façon de voir les choses. Après, j'écoute vraiment Shawn Mendes sans aucun a priori, donc ça, c'est un mauvais signe.
Faut pas me lancer sur ce sujet, Quentin.
Ah non, mais d'ailleurs, anecdote, j'écoute plus du tout.
Mais non.
Si, je suis très déçu. Maintenant, j'écoute, ça m'énerve.
Ah ouais.
J'aime plus. Est-ce qu'on peut dire que j'ai grandi ?
On est en train d'assister à un grand moment, mesdames et messieurs.
Est-ce que j'ai plus 15 ans et demi et une chatte ? C'est fou quand même.
Parce que pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont un petit peu paumés, il faut savoir que Quentin est connu pour être un fervent admirateur de Shawn Mendes, de sa musique et de sa personne. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est très très fort.
Ouais, ouais. Bah, je crois que j'ai eu mes premières règles. Hein.
T'es une grande fille maintenant. Je suis fière de toi.
T'es une belle personne, Julienne. Ah là là. Bon, bah écoute, est-ce qu'on va pas clore cette partie du podcast là-dessus ?
Je pense que c'est une belle façon de clore tout ça. Donc pour ceux que j'ai pu peut-être convaincre avec mon exposé, ceux que Quentin n'a pas découragés, vous pouvez écouter le nouvel album de Mankins. Donc je répète, ça s'écrit M-N-N-Q-N-S. Et donc leur album s'appelle Body Negative. Je pense que c'est un groupe qui a énormément de potentiel et qui a du coup le potentiel d'être un très gros groupe. Si demain ils percent, je serais pas étonnée. Et donc pour ceux que ça peut intéresser, ils font la première partie du groupe Rival Sons, un accent très terrible, hein, très 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 pourri. Rival Sons et Mankins, c'est à l'Olympia le 9 novembre, si ça peut vous intéresser. Je serai peut-être là, si j'ai une accréditation, on verra, on se fera peut-être coucou. Donc c'est tout pour moi cette semaine. C'est quoi notre petite recommandation de la semaine ?
Et bah cette semaine, on a décidé de parler de The Good Place sur Netflix. Donc évidemment, certains diront votre recommandation, elle est un peu has-been parce que ça a commencé il y a longtemps. Mais on a décidé d'en parler pour une raison bien précise, Alice. Qu'est-ce que c'est que c'est la raison ?
Bah la raison, c'est que c'est qu'ils sont en train de diffuser la toute dernière saison de la série, qui est la 4e saison. Et donc on s'est dit que pour les personnes qui le voyaient dans leur fil de recommandation Netflix ou qui entendaient X personnes en parler, on s'est dit qu'on pourrait peut-être les convaincre de regarder cette série avant qu'elle se finisse, puisque c'est une très très bonne série.
Une excellente série même, je dirais.
Et du coup, de quoi ça parle, Quentin ?
Eh bah écoute, c'est un concept hyper simple. Ça commence avec la jeune Eleanor, qui est jouée par Kristen Bell, qui débarque dans un bureau avec un mec qu'elle ne connaît pas, et ce mec-là lui annonce qu'elle est décédée. Et il s'avère qu'elle est dans The Good Place, donc ce qui est le paradis. Et donc, Eleanor se dit non, ça sent pas bon, parce que moi, j'étais quand même pas une meuf super sympa. Eleanor, c'était un peu une grosse conne.
On peut le dire, oui.
Et donc, elle se dit, c'est pas possible, je suis pas dans The Good Place, il y a un problème. Et donc, on va vivre cette nouvelle vie avec Eleanor.
Et donc du coup, Eleanor, qui va être chapeautée donc par la personne, on a dit qu'elle a rencontré dans le bureau, qui s'appelle Michael, qui est donc l'architecte du quartier de The Good Place où elle vit, qui est joué par le merveilleux Ted Danson.
Ted Danson, qu'on a notamment vu dans un tout autre registre, dans Les Experts.
Il est maintenant un monument du petit écran aux États-Unis grâce à ça. Donc Eleanor va évoluer dans son nouveau quartier, son nouveau... chez elle, si je peux me permettre, même si elle est plus trop chez elle. Et du coup, elle se dit, il faut pas qu'on capte qu'ils aient fait une erreur, parce qu'elle sait que, en gros, l'architecte a fait une erreur, qu'elle est pas censée être là, puisque c'était une personne abominable sur Terre, et qu'il y a aucune raison pour que elle, Eleanor Shellstrop, finisse au paradis. Je vais m'arrêter là au niveau du synopsis, parce que ce sera à vous de découvrir, mais du coup, chaque personne dans le quartier, on lui assigne une âme sœur, et donc elle, on lui présente son âme sœur qui s'appelle Chidi, qui était un prof de philosophie et d'éthique morale. Elle se dit, ben super, on m'a donné la meilleure personne, je vais demander à Chidi de m'apprendre à être une bonne personne. Et comme ça, elle va se dire, personne va se rendre compte de la supercherie, je vais mériter ma place et tout va bien se passer. Vu qu'on en est à la 4e saison, vous pouvez vous douter que tout ne se passe pas comme prévu.
Ah bah, il y a 2-3 rebondissements, effectivement. Ouais.
Mais on n'en dira pas plus.
Nous ne piperons mot.
Donc moi, personnellement, cette série, je savais, avant de la regarder, que j'allais l'adorer, parce qu'elle a été créée par Mike Shore, qui est peut-être un nom qui dit quelque chose à certains d'entre vous, puisqu'il est derrière The Office, Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine. Est-ce que je dois continuer ? Non. On m'annonce Mike Shore, Kristen Bell, Ted Danson. Je me suis dit, ok, je signe. J'ai regardé la première saison quand elle est sortie, et j'ai adoré. parce que c'est une série qui mêle comédie, grand public, accessible à tous avec des bonnes blagues comme on connaît, et de la philosophie, qui est plutôt peu commun dans une série NBC, grand public, puisque l'âme sœur de Eleanor va lui apprendre la philosophie et l'éthique. En gros, il l'apprend à Eleanor, et en même temps, si t'es pas très renseigné sur le sujet, il t'apprend des choses à toi aussi, puisqu'il vulgarise en gros les grandes théories philosophiques. Mais c'est pas relou, ils font ça de telle façon à ce que ce soit marrant et éducatif, ce qui est pas mal.
C'est ludique, on apprend en s'amusant.
Comme Dora l'exploratrice.
Oui, donc c'est une super série. Moi aussi, j'ai regardé la première saison rapidement en adorant. J'ai un peu lâché la deuxième saison, je ne sais même pas pourquoi, parce que vraiment, c'est qualitatif à mourir. Ils ont d'être ça.
On peut le dire.
Et moi, ce que j'ai surtout aimé dans cette série, c'est déjà Kristen Bell que j'adore, qu'on a vu dans plein de comédies hilarantes. Notamment, ce qui me vient à l'esprit, c'est Bad Moms. Elle est excellente. Mais aussi parce que, dès le premier épisode, tu sens que les persos secondaires seront excellents aussi. Donc t'as parlé de Chidi, mais moi je pense aussi à Tahani, qui est jouée par la grande Jamila Jamil, qui est connue surtout pour son investissement sur les réseaux sociaux, pour le droit des femmes, contre le harcèlement et tout ça. On a aussi Darcy Carden, qui joue la secrétaire du quartier.
Oui, qui s'appelle Janet. En gros, elle le répète tout le temps, c'est pas une femme, c'est pas un robot, c'est un être humanoïde qui est créé pour faciliter la vie dans le quartier. En gros, c'est une base de données vivante et elle peut répondre à n'importe quelle question de l'univers. Tu peux lui dire, je sais pas, donne-moi une maison qui fait la taille d'une balle de ping-pong, qui brille et qui crache des flammes. Et ben, elle va te la donner en l'espace d'une demi-seconde.
Du coup, ça donne lieu à des scènes extrêmement drôles, comme vous pouvez en douter.
Et pour finir, dans les personnages principaux, on a le personnage de Jianyu, qui est un moine bouddhiste, qui, lui, a fait vœu de silence jusqu'à la mort. C'est-à-dire que le gars, pendant sa vie, n'a jamais parlé. Il est mort, même s'il est au paradis, il parle pas. Ce qui, du coup, est assez cocasse parce qu'il est l'âme sœur de Tahani, dont on a parlé avant. Et en fait, Tahani est un personnage qui est très drôle parce que c'est une femme très riche, très influente, qui vivait dans les hautes sphères du grand monde.
Très imbue d'elle-même aussi.
Très imbue d'elle-même, qui a donné à toutes les grandes œuvres caritatives et qui connaît tout le monde. Constamment, elle se vante d'être la meilleure amie de Beyoncé, elle a gardé les enfants d'Obama, enfin que des trucs comme ça. Et du coup, c'est assez cocasse que l'univers les ait mis ensemble, Tahani et Jianyu, puisque elle, c'est un moulin à paroles, et lui, c'est un moine, donc il peut jamais répondre à ce qu'elle dit.
Et d'ailleurs, je pense qu'il en a pas très envie, parce que tout ce qu'elle dit à chaque fois, c'est extrêmement vide. Elle est extrêmement superficielle, en fait.
C'est ça.
Et du coup, tous ces petits personnages donnent un mélange savoureux. Par exemple, les scènes entre Eleanor et Tahani sont excellentes parce qu'Eleanor, c'est une connasse finie. Et elle se rend bien compte que Tahani est une connasse aussi à sa façon.
Mm-hmm.
Et donc, elles ne peuvent pas se supporter l'une l'autre.
Mais c'est une sorte d'amour-haine parce que tu sens que Eleanor est fascinée par Tahani. Mais en même temps, elle la méprise au plus haut point. C'est très beau.
Au-delà des personnages qui sont déjà en eux-mêmes extrêmement bien écrits, extrêmement profond et extrêmement drôle. On a aussi tout ce décor qui est magnifique, qui est plein de couleurs. On a une photographie impeccable. La façon dont ils prennent ce décor, ces personnages hauts en couleur, ça donne quelque chose d'extrêmement agréable à regarder. Je sais pas ce que t'en penses.
Je suis tout à fait d'accord. Ils ont vraiment fait un truc très bucolique, qui fait limite faux, parce que du coup, ils pouvaient pas faire quelque chose de réaliste, vu que c'est le paradis.
C'est le paradis.
Et du coup, ça donne quelque chose de très marrant, très fun.
Moi, ça m'évoque quelque chose de presque enfantin, tu vois ce que je veux dire ?
Ah oui, complètement.
Tu sais, ça fait un peu dessin d'enfant, les maisons qui sont vertes, rouges et jaunes. Et je trouve ça extrêmement sympa.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Forcément, on va pas vous raconter ce qui se passe dans les saisons après, parce que ça serait pas drôle. Surtout que c'est certes une comédie, mais c'est pas redondant.
Bah non.
Ça retombe pas toujours les mêmes histoires. Enfin, vous verrez ce dont on parle.
Ah bah, pour le coup, pas du tout.
Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une comédie nouvelle génération, un peu comme Brooklyn Nine-Nine.
Ah bah, ça se voit que c'est le même créateur, de toute façon.
Bah, c'est ça. C'est que c'est le même type d'humour, mais ça retombe jamais à plat, puisque, en fait, il utilise un peu les codes des séries plus dramatiques ou autres, avec les plot twists et tout, et qui met ça dans une petite comédie qui passe crème. Et donc, en fait, ça surprend le spectateur, qui s'attend à avoir un truc ultra chill, et qui, du coup, est surpris. Moi, j'ai rarement été surprise en regardant une comédie.
Ah bah, clairement, oui. Enfin, moi, je me demande même si ça m'est déjà arrivé une fois. Parce que là, pour le coup, bah, comme tu disais, c'est presque dramatique parce que, un peu comme le font les créateurs de séries comme Grey's Anatomy ou des mecs comme ça, à chaque fin de saison, t'es sur le cul, en fait. Tu te dis, bah, c'est quoi la suite? Enfin, comment tu fais une suite à ça? Enfin, moi, personnellement, à la fin de la saison 1, je me suis dit, la saison 2, c'est la dernière. Ils peuvent pas faire autre chose. À la fin de la saison 2, tu te dis, bah, c'est la saison 3, ça sera fini. Tu peux pas faire autre chose.
Oui.
Tu vois, c'est ce truc-là du, c'est tellement oufissime le retournement de situation que tu te dis, ils pourront pas faire mieux, en fait.
Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'équipe qui est derrière ça. C'est que c'est une série qui marche du feu de Dieu, qui est tout le temps promue par Netflix parce que bah, ça fait des sous, des sous, des sous. Sauf que là, donc, ils en sont à la quatrième saison, et vu que ça fait des super audiences, ils avaient à peine signé pour la quatrième saison, qu'on leur a proposé de signer pour une cinquième saison, et l'équipe de Mike Schur a dit non. Quand on a pensé la série, on l'a pensé en quatre saisons. Si on l'allonge, ce sera pas juste pour les fans, parce qu'on va juste allonger l'histoire pour allonger l'histoire, pour faire du profit. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc, à la fin de la saison 4, même si on pourrait en faire plein d'autres, on va s'arrêter là, parce que l'histoire, en gros, elle a sa date d'expiration, et après ça, ce sera nul, ce sera plus aussi bon. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement chouette. On voit très peu ça, en fait. Je pense au nombre de séries que moi, j'ai décrochées parce qu'il y avait trop de saisons et que ça tournait en rond et ça n'avait plus aucun sens. Et du coup, ça perdait l'essence de l'histoire.
Ah bah, c'est super courageux, déjà. Ouais, y a plein d'exemples de ça. Hein. Et notamment dans les séries dramatiques, où ils se disent, bah au pire, on en tue un à la fin de la saison, les gens vont être tristes et ils vont venir la saison d'après pour voir comment on va faire.
Du coup, j'ai trouvé que c'était très honorable de leur part de faire ça, parce que c'est quelque chose qu'on voit peu de nos jours.
Ouais, bah c'est en même temps honorable, en même temps, ça fait chier d'honorer ça, parce que c'est la logique, en fait. Enfin, ton histoire est finie, t'arrêtes, et puis c'est tout, tu vois. Pour moi, c'est juste des vrais artistes. Ils ont pensé un truc, ils l'ont fait, ils ont pas de suite, bon bah tant pis, on arrête, on fait autre chose, tu vois. Après, tu vois, je dis ça, mais je serais extrêmement triste de voir finir Brooklyn Nine-Nine. Comme j'ai été triste de voir finir The Office, comme je vais être triste de voir finir The Good Place. Mais au moins, c'est bon, tu vois.
Ouais. Tu sais que c'est la fin telle que les créateurs l'avaient envisagée, qu'ils n'ont pas eu à faire de concessions.
Ouais. Ça n'a pas été repris par un autre scénariste parce qu'ils n'ont pas voulu. Ouais.
C'est ça. Donc, moi, j'ai très très hâte de voir comment ça va se finir. Parce que, en fait, pour la saison 4, il y a un nouvel épisode tous les jeudis ou vendredis, je ne sais plus.
Aucune idée.
Donc, c'est pas une série Netflix, c'est une série NBC qui est diffusée sur Netflix. Et du coup, il y a un nouvel épisode toutes les semaines. On vient de voir le troisième épisode, on attend le quatrième. Et du coup, on ne sait pas du tout comment la série va se finir. Et j'ai très 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 hâte de voir.
Et bah, moi aussi, figure-toi. Et en même temps, je redoute extrêmement parce que j'ai peur que ça finisse.
Oui, pareil. Mais à juger de la qualité du reste, je pense qu'on va être très très bien.
Ah, moi, je pense qu'on va être sur le cul encore une fois à la fin.
Moi, j'attends ça de Mike Schur. Et si Mike Schur me déçoit, je ne crois plus en rien dans ma vie.
Si même les meilleurs nous déçoivent, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est foncer sur Netflix, foncer sur The Good Place, foncer regarder Kristen Bell encore une fois dévorer l'écran. Vous serez pas déçus, et en plus vous avez extrêmement de chance, parce que contrairement à nous, vous pourrez binger 3 saisons en seulement un week-end, donc n'hésitez plus, et allez le voir, si ce n'est pour vous, au moins pour nous.
Mais au fait, la semaine dernière, on n'avait pas lancé un petit appel au peuple, trouvez-nous un hashtag, on en est où là à peu près?
Eh ben écoutez, on a reçu des hashtags à un nombre indéfini, et pour l'instant, je sais pas toi Alice, mais moi je suis pas convaincue. Je pense que nos auditeurs, s'ils ont su reconnaître notre valeur, peuvent faire mieux.
Oui, je suis tout à fait d'accord. On en a reçu, on a des bonnes suggestions.
On a même des très bonnes suggestions.
Mais on n'a pas LA suggestion.
On attend THE suggestion, comme dirait Christian Bale.
Et donc on vous avait dit que ce serait ça, avec l'annonce en haïku, Francis Cabrel, ce serait cette semaine. Mais on veut pas bâcler.
Bah vous l'avez pas mérité quoi.
Bah non, clairement pas. Nous, on vous donne de la qualité, pourtant, top quality.
Nous, on se donne à fond, hein, je sais pas si vous vous imaginez. Nous, on est dans le jus, là.
On fait ça en one shot, on n'a jamais rien coupé.
C'est du live, c'est presque du live.
On fait ça parfaitement. On n'a pas du tout des moments où on a des fous rires tellement qu'on est mauvais.
Bah, non. Enfin, non. Parce que pour ça, il faudrait qu'on soit mauvais, en fait.
Et c'est pas notre cas.
Non.
Du coup, tout ça pour dire que, eh ben, on va repousser. Et on va pas vous donner de date butoir, on va repousser jusqu'à temps qu'on ait le hashtag. Donc si vous pensez que vous avez le hashtag gagnant, le petit joyau de la couronne, n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer soit un petit message, ou comme on vous a dit, on a l'adresse mail qu'on mettra encore en description, mais c'est intégralement pas filmé, @gmail.com, tout bête.
Ce qui est vraiment pas très dur à retenir. Beaucoup moins que Munkins qui s'écrit MNNQNS.
Tout à fait, donc nous, on a choisi la facilité. Hein.
Voilà.
Donc, si vous avez une petite idée de comment nommer notre si belle commu, envoyez-nous votre suggestion. Et, on le répète, si vous êtes le lauréat du Joyau de la Couronne, vous aurez en direct live quasi...
Un léger différé.
Un haïku raconté par Quentin lui-même, écrit par Quentin lui-même, dit avec l'accent de Francis Cabrel. Si ça vous vend pas du rêve, je sais pas ce qu'il vous faut.
Bah moi non plus, parce que franchement, même moi, là, maintenant, j'ai envie de m'entendre faire ça.
Bah moi aussi, je t'avoue.
C'est quand même fou. Et d'ailleurs, on vous rappelle que La Communauté de l'Anneau, c'est déjà pris. Parce qu'en fait, c'est un film. Non mais je dis ça parce que on sait jamais, tu sais. Pareil, La Rébellion, un autre film. C'est pas possible. Et bah écoutez, sur ce, on va terminer ce podcast. Donc on vous dit bisous. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. N'achetez pas d'espadrilles. Et surtout, gardez la pêche. Ciao.
Parlez-vous, cours de mime !